France Culture.
Autre parti de gauche. Explication dans ce journal avec Rosalie Lafarge et Stéphane Robert. Christophe Ruggia, condamné à 2 ans de prison ferme sous bracelet électronique. Le réalisateur a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement Adèle Haenel alors que l'actrice n'était qu'une très jeune adolescente. Une bande de fous extrémistes, voilà comment Donald Trump qualifie les dirigeants de l'USAID, l'agence américaine pour le développement international. L'organisme est menacé dans son existence même. À Bruxelles, les dirigeants européens tentent de présenter un front uni face au président américain, mais il y a de nombreuses nuances au sein des 27 pays de l'UE. Nous verrons cela avec notre correspondant à Bruxelles, Fabien Cazot. François Bayrou va-t-il réussir là où Michel Barnier a échoué, survivre à la censure sur les questions budgétaires? Le Premier ministre a enregistré un premier succès aujourd'hui. Le Bureau national du Parti socialiste a décidé de ne pas censurer le gouvernement sur le budget de l'État et celui de la sécurité sociale. Et tous les députés socialistes suivront cette consigne. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, allons à l'Assemblée où François Bayrou a choisi d'engager la responsabilité de son gouvernement sur ces deux budgets. C'est la première fois que le Premier ministre dégaine l'article 49.3 de la Constitution. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du Palais Bourbon où François Bayrou s'est exprimé tout à l'heure.
Et il avait dit qu'il ne le ferait pas de surprise, donc tout à l'heure quand François Bayrou, l'air serein, termine son propos sur le projet de loi de finances par ces mots.
J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement.
Responsabilité engagée sur le texte trouvé en commission mixte paritaire. Un budget de compromis, vante le Premier ministre, qui appuie sur l'urgence du moment.
Aucun pays ne peut vivre sans budget. Et la France, moins que tout autre. Est-ce que ce budget est parfait? Non. Aucun d'entre nous ne le trouve parfait. Mais c'est un équilibre.
Sans s'adresser nommément aux socialistes, il salue la bonne foi et la bonne volonté au rendez-vous des discussions. Et nous voici donc à l'heure de vérité, insiste encore François Bayrou, qui évoque la responsabilité, la stabilité, la nécessité d'avoir ces deux budgets, dégainant quelques minutes plus tard un deuxième 49.3 sur le début du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Nous sommes tous ensemble désormais devant notre devoir. Et si vous en décidez ainsi, puisque la décision est entre vos mains, dans les 10 jours, à force de pas faits les uns vers les autres, d'efforts et de compréhension, la France aura son budget, aura ses budgets.
Et ce pari sera alors tenu pour François Bayrou qui très vite après sa nomination à Matignon évoquait un budget pour la mi-février. Mais il va d'abord falloir en passer quand même par la case motion de censure. Les insoumis en confirment le dépôt sans grand espoir compte tenu de la décision du Parti Socialiste.
Merci Rosalie Lafarge avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Revenons à présent sur ce choix des instances du PS de ne pas censurer François Bayrou pour l'instant. Les députés socialistes approuve la décision du Bureau national. Je vous propose d'écouter l'élu PS de l'Essonne, Jérôme Guedge.
Nous avons fait le choix de la négociation pour atténuer les mauvais coups qui étaient prévus dans ce budget. Dans la négociation, on a eu des avancées. Elles ne sont peut-être pas idéales, mais elles vont dans le bon sens. Donc après, on se prononce souverainement. Les socialistes ont pris une décision je suis à peu près convaincu que ce sera soutenu par l'ensemble des députés socialistes. On est une formation qui est collégiale et démocratique. Et donc on essaye de rester groupés. C'est ça qui nous permet de peser dans le débat public et aussi d'incarner cet espace politique dont le pays a besoin. Une gauche républicaine, écologique, sociale, responsable, voilà, qui ne mégote pas sur ses convictions, mais qui en même temps assume les responsabilités.
Le député socialiste Jérôme Guedge répondait à Marie-Aimée Copleutre. Nous sommes avec Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Stanislas.
Avec ce refus du PS de censurer François Bayrou, le Premier ministre devrait sauver pour l'instant sa tête, en tout cas, même si le Rassemblement National décidait, lui, de voter la motion de censure de la gauche.
Oui, c'est une affaire d'arithmétique. Si l'on additionne les députés de tous les groupes d'opposition susceptibles de voter la censure, la gauche plus l'extrême droite, ça fait 332 députés, on est largement au-dessus de la majorité. Si l'on ôte les socialistes, ça ne fait plus que 266 députés, on est en dessous d'une majorité qui s'établit à 289 députés. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste était au centre du jeu politique et l'objet de toutes les attentions. Le bureau national du PS qui s'est réuni à la mi-journée a donc décidé à une écrasante majorité de ne pas censurer le gouvernement. Et ça vaut pour tout le monde, pour les 66 députés du groupe, indiquent les instances socialistes. On verra au bout du compte si tout le monde respecte la consigne, mais on imagine qu'elle sera suivie par la plupart des députés. Dès lors, le choix que fera le Rassemblement national n'a aucune importance. François Bayrou ne sera pas censuré, ni sur le projet de loi de finances, ni sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour lequel un deuxième 49.3 a également été déposé. Et la France devrait avoir un budget pour l'année 2025 d'ici la semaine prochaine. Mais le PS ne va pas en rester là. Le groupe veut montrer qu'il reste dans l'opposition et déposera très prochainement, après l'adoption du budget, une motion de censure spontanée en utilisant l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. Cette motion devrait dénoncer notamment la dérive droitière du gouvernement en matière d'immigration et n'aurait dans ces conditions quasiment aucune chance d'être votée par le Rassemblement national, ce qui dégage un peu l'horizon pour François Bayrou qui peut désormais espérer rester quelques mois supplémentaires à Matignon.
Stéphane Robert, merci. Et ce soir, Jean-Luc Mélenchon dénonce cette non-censure voulue par le PS qui, je cite, « consomme son ralliement au gouvernement Bayrou. Le nouveau Front populaire est réduit d'un parti », affirme le leader de la France insoumise. L'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges avait déjà accentué les divisions au sein du NFP. Le député LFI Louis Boyard a été largement battu hier par la candidate LR Christelle Niasme. Où étaient les communistes, les socialistes, les écologistes? Je ne sais pas, s'interroge Louis Boyard sur le réseau X. Christophe Ruggia a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur Adèle Haenel alors que l'actrice n'était qu'adolescente. Le tribunal de Paris l'a condamné à porter pendant 2 ans un bracelet électronique. L'affaire avait déclenché le MeToo du cinéma français. En 2019, Adèle Haenel avait raconté à Mediapart ses samedis après-midi passés à subir les caresses de Christophe Ruggia. C'était après le tournage de son film Les Diables. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Le jugement rendu par le tribunal est conforme aux réquisitions de l'accusation.
Oui, 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous la forme d'un bracelet électronique. Christophe Ruggia est aussi condamné à verser à Adèle Haenel 15 000 euros au titre du préjudice moral, 20 000 euros pour les années de suivi psychologique et interdit d'exercer auprès des mineurs pour les 5 ans à venir. À l'annonce de la décision, Adèle Haenel reste de marbre, les yeux rivés vers le sol, mais dès la levée de l'audience, elle tombe dans les bras de ses soutiens, Céline Sciamma, Judith Godrèche au premier rang, et puis de son avocate, maître Anouk Michelin, soulagé que le tribunal ait reconnu non seulement l'agression, mais aussi l'ascendant de Christophe Ruggia sur la jeune actrice de ses 11 à ses 15 ans.
C'est ça qui nous émeut aujourd'hui et qui l'émeut elle, c'est d'entendre le tribunal lui dire qu'elle est la victime de Christophe Ruggia.
Le réalisateur de son côté quitte la salle sans un mot, suivi de maître Fanny Collin, son avocate.
Christophe Ruggia maintient qu'il n'a jamais touché Adèle Haenel.
La décision prononcée est non seulement injustifiée, nous dit-elle, mais également dangereuse.
La loi du plus puissant, de celui qui crie le plus fort, de celui qui a le soutien inconditionnel de l'opinion publique, a broyé le principe fondamental du droit, qu'est le bénéfice du doute.
La Cour a préféré l'injustice au désordre, conclut-elle. Christophe Ruggia a donc d'ores et déjà fait appel.
Mathilde Cariou, merci. Nous vous en parlions dans notre journal de 12h30, l'histoire de ces 3 chauffeurs routiers zimbabwéens menacés par leur employeur, une entreprise slovaque sous-traitante d'un transporteur allemand. Ces salariés voulaient toucher leur paye de décembre, 700 euros, un salaire qui évidemment ne correspond pas au droit français. Ils ont subi des représailles sur des aires d'autoroute françaises. Wafia Kenich, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Ces salaires très faibles correspondent à un montage financier que l'on retrouve souvent dans le secteur des transports en Europe, Wafia.
Oui, au départ, ce que l'on applique en théorie, c'est le règlement européen sur le détachement, le principe de libre circulation des travailleurs, depuis quelque peu dévoyé. Alors au sein de l'UE, on interdit la double affiliation, c'est-à-dire que l'on cotise dans le pays où on développe le principal de ses activités. Sauf que certaines entreprises ont rapidement compris qu'elles avaient tout intérêt à être immatriculées dans un État où les cotisations et le niveau d'impôt sont faibles. Pour le secteur des transports, donc, l'activité est transnationale et c'est donc plus difficile de démontrer la fraude. D'après les explications d'un inspecteur du travail, le montage est le suivant. Les entreprises frauduleuses s'immatriculent dans des petits pays d'Europe centrale, Lituanie, Estonie, Slovaquie, mais elles ne transportent rien de ces pays. Tout au plus ont-elles des bureaux, une adresse et presque une coquille vide. Cela permet de payer les conducteurs au salaire en vigueur dans ces pays, donc bien moins qu'en Allemagne ou en France. En revanche, elles chargent les marchandises à Rotterdam, Lille ou Stuttgart, et c'est en suivant ces trajectoires commerciales que l'inspection du travail peut détecter ces montages frauduleux. Des règles ont bien été mises en place, mais elles sont difficiles à faire appliquer, d'abord par manque de personnel pour réaliser les contrôles, et plus encore pour poursuivre, car lorsque l'on parvient enfin à démontrer la fraude, ensuite, les procédures pénales sont longues et la justice n'a ni le temps ni l'argent pour s'attaquer aux grands groupes et à leur arsenal juridique.
Merci Wafia Kenich pour ces explications. Deux hommes blessés par balle, gare d'Austerlitz à Paris cet après-midi. La sûreté ferroviaire a ouvert le feu sur un individu qui taguait des croix gammées. Il a sorti une arme qui s'est avérée ensuite factice. Les tirs des agents ont atteint par ricochet un voyageur qui a été légèrement touché. Le tagueur, lui, a été plus grièvement blessé. C'est la nouvelle croisade de Donald Trump. Le président américain a entrepris de s'attaquer à l'Agence américaine pour le développement international, USAID en anglais. Une croisade pour laquelle il peut compter sur Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, qu'il a chargé de démanteler plusieurs institutions gouvernementales. Donald Trump veut, selon ses mots, virer tous les dirigeants de l'USAID, qu'il qualifie de fous extrémistes, et l'entreprise de démantèlement a déjà commencé. Les explications à New York que de Loïc Loury.
Depuis samedi, le site internet de l'USAID est hors service, le compte X de l'agence a été suspendu et les employés du siège à Washington ont reçu la consigne ce matin de ne pas venir travailler. Elon Musk, dans une conversation sur X, affirme être tombé d'accord avec Donald Trump, l'agence doit fermer. Ce qu'on a là, ce n'est pas une pomme avec un verre dedans, c'est une boule de verre. Il faut se débarrasser de l'ensemble, ça doit disparaître, l'USAID est irréparable. L'homme le plus riche du monde, à la tête d'un département de l'efficacité gouvernementale, aux contours flous, s'est donné une mission, couper chaque jour dans les dépenses publiques à hauteur de 4 milliards de dollars. L'USAID en fait particulièrement les frais, encore violemment attaqué hier par Donald Trump. L'USAID est dirigé par une bande de fous extrémistes. On les vire et ensuite on prendra une décision. Le président, bien content, selon l'un de ses conseillers, de laisser Elon Musk, dit-il, faire le sale boulot. L'avenir de l'USAID, un acteur clé du soft power américain, lui apparaît sombre, même si l'agence, financée par le Congrès, ne peut pas être, en théorie, dissoute sur simple décret.
Loïc Loury, correspondant aux États-Unis. Sur un autre front, Donald Trump a fait aujourd'hui une petite concession. Les États-Unis vont suspendre pendant un mois la surtaxe de 25% annoncée samedi sur les importations en provenance du Mexique. C'est la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui l'affirme après une conversation téléphonique avec son homologue américain. Sera-t-il aussi clément avec l'Union européenne ? Donald Trump menace de relever les droits de douane pour les produits européens importés aux États-Unis. Et la question agite le sommet des 27 chefs d'État et de gouvernement qui se tient aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles où l'on retrouve Fabien Cazot.
Les Européens avaient bien prévu d'aborder la question des liens transatlantiques ce matin dans le cadre de leur sommet informel consacré à la défense, mais les menaces douanières de Donald Trump ont fini par s'inviter au menu des discussions. Les 27 se cherchent une stratégie commune. La plupart des dirigeants européens défendent une ligne de fermeté à l'image d'Emmanuel Macron.
Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter. Et donc réagir.
Réagir, mais comment ? Après avoir rappelé que l'Union européenne et les États-Unis bénéficient chacun de l'ouverture réciproque de leur marché, le chancelier allemand Olaf Scholz évoque une stratégie œil pour œil, dent pour dent.
Il est clair qu'en tant que grande zone économique, nous pouvons réagir aux politiques douanières par des politiques douanières. Nous devons le faire et nous le ferons. Mais l'objectif doit être de privilégier la coopération.
Fermeté et dialogue, une forme de « en même temps » européen face à Donald Trump, qui permet surtout de ménager ceux comme les Italiens, les Hongrois ou les Polonais, qui revendiquent ouvertement leurs liens privilégiés avec les États-Unis.
Les 27 qui accueillent également aujourd'hui le Premier ministre britannique Keir Starmer, une première depuis le Brexit entré en vigueur il y a tout juste 5 ans. Les relations entre Londres et Bruxelles semblent être sur la voie de l'apaisement, Laura Calmus.
Défense, commerce, immigration, aujourd'hui à Bruxelles, Keir Starmer pourrait bousculer les relations post-Brexit avec l'Union européenne. 5 ans après la rupture, le Premier ministre britannique veut renforcer la coopération militaire pour soutenir l'Ukraine et prouver aux États-Unis que l'Europe tient son rôle. Objectif, acheter des équipements ensemble et afficher une alliance solide. Sur le plan économique, Keir Starmer pourrait plaider pour une simplification des formalités douanières, notamment pour les produits alimentaires, dont les coûts pénalisent lourdement les producteurs britanniques. L'immigration pourrait aussi figurer à l'agenda. Le Royaume-Uni aimerait un partage accru de renseignements avec l'Union européenne pour mieux lutter contre les réseaux de trafic de migrants et le blanchiment d'argent, des crimes transfrontaliers qui nécessiteraient une coopération renforcée. Ces discussions, bien qu'encore préliminaires, pourraient déboucher sur des mois de négociations. Le gouvernement devra alors trouver un équilibre, obtenir des accords avantageux, tout en rassurant les électeurs pro-Brexit que le Royaume-Uni ne réintègre pas l'Union européenne par la petite porte.
Laura Calmus, correspondante à Londres. En Allemagne, la CDU, le parti conservateur, était réunie en congrès aujourd'hui, moment particulier, à 3 semaines des élections législatives, surtout depuis le rapprochement du parti avec l'extrême droite. La semaine dernière, les conservateurs ont tenté à 2 reprises de s'appuyer sur l'AfD pour durcir la politique migratoire allemande. Hier, plus de 160 000 personnes ont manifesté à Berlin en signe de protestation. La CDU, favorite des sondages, a décidé de serrer les rangs. Sébastien Baer à Berlin.
L'ovation debout et pendant de longues minutes des délégués de la CDU pour Friedrich Merz, leur candidat. Malgré les critiques, le parti chrétien-démocrate fait front derrière son chef. À la tribune, les cadres comme Boris Rhein viennent tous délivrer le même message, unité.
Je veux te remercier personnellement, cher Friedrich, parce que tu es resté debout, tu t'es battu et tu as montré que le parti reste fidèle à ses convictions, même dans la tempête. C'est exactement ce dont notre pays a besoin. Chers amis, voilà ce qu'est un chancelier.
Face à ses délégués, le Parti conservateur présente son programme. Le volet consacré à la politique migratoire prévoit le renforcement des mesures avec des contrôles permanents aux frontières, le renvoi de tous les sans-papiers et le placement en rétention des étrangers jugés dangereux. Pour Julia Klöckner, députée conservatrice, il faut durcir le ton.
Nous sommes un pays ouvert, nous voulons aider les gens. Mais si des personnes apportent ensuite la violence dans notre pays, alors il faut dire clairement qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et si un chancelier, après chaque attentat tragique, après chaque meurtre, ne fait qu'exprimer sa consternation, mais ne fait aucune proposition pour améliorer la situation, alors il est le plus grand complice des extrémistes. Car il les nourrit.
Une nouvelle fois, les applaudissements crépitent dans la salle. À l'extérieur du centre des congrès de Berlin, changement de décor, plus de 500 personnes sont venues protester contre le rapprochement inédit entre la droite et l'extrême droite.
Sébastien Baer, notre correspondant en Allemagne. Retour en France pour terminer ce journal avec une page de notre histoire politique, lettres, carnets de notes, feuillet de ses mémoires de guerre. Des archives du général de Gaulle ont été présentées au ministère de la Culture ce matin. Il s'agit de l'eau préemptée par l'État lors d'une vente aux enchères en décembre dernier. Des trésors nationaux, selon la ministre Rachida Dati. C'est un reportage d'Héloïse Roger.
Exposée sous clé dans l'une des vitrines, une lettre du général de Gaulle destinée à sa mère. Écrite en 1936, elle va prendre place aux archives nationales. Bruno Ricard en est le directeur et pour lui, récupérer cet écrit du général à cette période de l'histoire est capital.
Il a lu Mein Kampf d'Hitler. Les Allemands viennent de remilitariser la Rhénanie, ce qui était interdit par le traité de Versailles. Il a une version dès 1936 très très lucide et il reproche déjà aux États démocratiques de ne pas être assez ferme à l'égard d'Hitler. d'Hitler.
Les archives nationales ont acquis au total 118 lettres, ce qui correspond à 67 des 140 lots préemptés par l'État. La Bibliothèque nationale de France, elle, va accueillir 29 lots, des manuscrits, des mémoires du général de Gaulle, incarnés avec ses notes personnelles lors de son installation à Londres, des documents littéraires et liés à son œuvre de jeunesse.
C'est tout ce que nous souhaitions acquérir.
Gilles Pécou est le directeur de la Bibliothèque nationale de France.
La Bibliothèque nationale, depuis les années 1950, est considérée par le général de Gaulle lui-même comme le lieu où, naturellement, doivent aller tous les documents qui concernent son œuvre littéraire. Ce que nous avons acquis complète un grand nombre de fonds que nous avions déjà, qui avaient été donnés par le général de Gaulle lui-même.
Les archives nationales, tout comme la BNF, prévoient de numériser ces documents pour les conserver, mais aussi de les exposer à destination du grand public pour sensibiliser les générations futures. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation BNP Paribas fait partie des mécènes. Isabelle Giordano est la déléguée générale.
Je suis très attachée au fait que l'on forme aujourd'hui de futurs citoyens éclairés, des gens qui sont capables de se dire que la France, l'intérêt général, les valeurs que nous défendons en Europe, elles ont besoin d'être défendues. Et pour ça, on a besoin de l'argent des mécènes. Il faut pratiquer le partenariat entre le privé et le public.
8 mécènes se sont engagés pour permettre l'acquisition par l'État de ces lots pour un montant d'€1,5 million.
Les nouvelles archives du général de Gaulle, reportage signé Héloïse Roger. Un mot du temps demain, froid et sec sur tout le territoire. Demain matin, les grisailles seront nombreuses sur la moitié nord et localement sur le sud-ouest. Les températures sont stables, entre moins 5 et 0 degrés en général pour les minimales, jusqu'à 8 degrés dans les régions littorales. L'après-midi, il fera en moyenne de 3 à 13 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Marie-Claire Oumabadi.